Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, dans une poignée de secondes, Laurent Kérusoré va venir nous rejoindre, celui qui a incarné Thomas Marcy dans Plus belle la vie, va venir nous faire découvrir en avant-première son premier single Barbara, qu'on va découvrir dans un instant, qui va sortir mercredi à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. En fin d'émission, Alexandra Redamiel, la directrice des variétés et des divertissements, notamment de France Télévisions, va venir nous parler des projets de la chaîne. On va parler de l'Eurovision avec Alexandra. Elle sera là en fin d'émission. Et puis nos coups de cœur télé, cette semaine consacrée à la fiction Les Siffleurs. À cette occasion, la créatrice Nathalie Marchak et la jeune Ludmila Makowski, la jeune héroïne Lila, sera notre invitée exceptionnelle. On reparlera également de BDE qui est sorti la semaine dernière sur Prime avec Lucien Jean-Baptiste et Elena Noguera. Et on aura également le plaisir aujourd'hui de mettre en avant Le Secret de la Grotte avec Elodie Varlet qui sera notre invitée exceptionnel. Et en exclusivité podcast, aujourd'hui, on aura le plaisir de retrouver Redouane Arjan. Il sera bientôt à l'affiche du film Ouria, qui sortira le 15 mars sur les écrans. Il sera notre invité. Et le film est sorti également la semaine dernière, La Syndicaliste. Muriel Carnet viendra nous raconter son histoire. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti.
La découverte musicale. Chut, on écoute la télé.
Allez, on va parler musique aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Dans deux jours, c'est la journée nationale où les femmes sont mises à l'honneur. Et s'il y en a un qui met les femmes à l'honneur dans son titre, on connaissait Thomas Marcy dans Plus belle la vie. Eh bien, on va découvrir Laurent Kérusoré, chanteur, qui nous avait quitté avec tout le bonheur du monde dans le dernier épisode de Plus belle la vie. Eh bien, Laurent Kérusoré nous offre un titre exceptionnel, un single qui sort mercredi justement pour cette journée spéciale intitulée Barbara. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour à vous.
Merci d'être là, ça nous fait plaisir de t'avoir. Tu vois, on avait honoré une promesse, on avait dit on sera là pour tous vos projets après Plus belle la vie. Et
ça
franchement,
ça fait plaisir aussi d'être là.
Eh ben, c'est un super projet, dis-moi, Barbara, dans deux jours. Et si on connaissait évidemment un peu moins Laurent Kérusoré, chanteur, on connaissait plus l'acteur, évidemment. On a découvert avec talent tout le bonheur du monde qui a fait pleurer des millions de gens fin novembre. Bien là, c'est Barbara. Comment est venue l'idée de ce titre? Raconte.
Alors, tout d'abord, c'est Didier Mellet, l'auteur-compositeur. C'était une rencontre assez fabuleuse pour moi il y a quelques années. C'est un sujet que lui et moi voulions développer, mais pas d'une manière dramatique, j'allais dire, même si le sujet est dramatique. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la misogynie, des gestes que certains hommes pourraient se permettre sur la femme dans les boîtes de nuit ou même dans les transports en commun. C'est un sujet important pour nous. Et justement, on voulait le développer d'une manière... pas dans une chanson, on va dire, très dramatique. Donc la chanson est plutôt rythmée, plutôt pop-rock. Et voilà, quoi, c'était un but pour nous, mais c'était surtout important pour nous d'en parler. Voilà.
Alors si Thomas Marcy a rythmé, évidemment, ces 20 dernières années quasiment dans Plus belle la vie, c'est une face assez 18. Méconnue, mais tu chantes depuis longtemps. C'est quelque chose qui est très important pour toi, la chanson.
Ah, c'est vital. C'est-à-dire que le matin, je me réveille avec de la musique, des chansons. Ça fait partie de ma vie. Quand j'étais gamin, moi, je suis issu d'une famille de musiciens du côté de mon père. Donc, tous jouaient d'un instrument. Moi, hélas, on ne m'a jamais fait apprendre le solfège. On me disait d'aller en bout de table pour chanter. Ce que j'ai fait. Et du coup, alors, certes, mon répertoire est plutôt chansons françaises, Mouloudji, Moustaki, Aznavour, Brel, Colette Renard. Enfin, moi, je suis très, j'adore la chanson française et j'adore les textes. Voilà, j'aime beaucoup les textes. Alors, il y a quelques années, justement, j'ai eu la chance avec Emma Chaud, Michel Haber, de me produire à l'Olympia et à Bobino, et ça a été une expérience pour moi fabuleuse. Je le raconte un petit peu, enfin, je le raconte souvent, mais évidemment, je me sens très heureux devant une caméra, puisque c'est mon métier, sur une scène au théâtre. Mais ce jour-là, le premier jour quand le rideau s'est ouvert sur moi à l'Olympia, je me suis jamais senti aussi vivant. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression que mes pieds prenaient racine sur la scène. Et là, je me suis dit, Laurent, il faut pas que tu lâches ça. Ouais. C'est une partie intégrante de ta vie. Même si je reste un acteur, c'est-à-dire, c'est pas une nouvelle vie dans la chanson. Hein. Je reste très attaché à mon métier. Mais c'est autre chose qui fait partie de moi, qui fait partie de mon corps. Voilà.
Alors Barbara aura aussi un très beau clip qui a été tourné d'ailleurs en boîte de nuit en novembre dernier, où même Joachim Latsko te fait une petite apparition, mais tous les copains étaient là pour te soutenir dans cette aventure.
Alors ça a été très touchant. Alors voilà, ça aussi c'est Plus belle la vie, j'allais dire pour résumer. Alors maintenant c'est presque un terme, Plus belle la vie. Quand c'est Plus belle la vie, c'est que c'est vraiment chouette, c'est les copains et c'est des belles aventures.
On a l'impression que c'est famille quoi.
Mais c'est ça, et quand Didier Mellet, l'auteur, a publié sur les réseaux sociaux qu'on avait besoin de gens pour participer à notre clip, en une demi-heure, je crois qu'on avait presque une centaine de personnes. Dont des techniciens, des caméramans, des chefs-op, une maquilleuse, beaucoup de figurants qui avaient déjà qui figuraient dans Plus belle la vie. Du coup, ça a été assez touchant pour nous et on a passé d'ailleurs une journée géniale. Et nous, quand la journée s'est terminée, on allait prendre la parole avec Didier pour les remercier tous. En fait, ils nous ont devancé, tous les gens qui ont participé sont venus nous remercier. Du coup, on s'est dit, il se passe quand même quelque chose de très sympa. Surtout qu'on a quand même passé une très belle journée dans la musique, voilà, à danser. Il y a pire quand même. Mais oui, je tiens quand même à dire que ce qu'on fait avec Didier, c'est du fait maison. C'est-à-dire que la chanson a été enregistrée dans mon salon, parce que j'ai une maison très très bien isolée. Du coup, on peut se permettre. Donc, mon salon se transforme tout de suite en studio de musique. Le clip a été fait avec les copains. Ouais. On n'a aucune maison de disque derrière nous. C'est fait avec un peu d'argent et beaucoup d'amour.
Ben c'est ça qui est chouette. Est-ce que Barbara pourrait être le précurseur d'un album que tu prépares ?
Alors c'est vrai qu'avec Didier, on a pas mal de chansons. Il a pas mal de chansons sur son bureau qu'on a déjà enregistrées. Alors album ou ce qu'on appelle un OP, puisque aujourd'hui les gens n'écoutent plus les albums dans leur intégralité. C'est plutôt des 4-5 titres. Donc pour l'instant, on est en pourparlers là-dessus, mais disons qu'on a encore plein de titres à venir.
Eh ben écoute, ça c'est une bonne nouvelle, évidemment.
Oui, je trouve aussi. Et dont une chanson qui certainement, ça sera la prochaine qui sortira, qui s'appelle Vivement Vendredi, que j'ai chanté justement chaque soir à l'Olympia et à Bobino. Je commence toujours mes spectacles avec cette chanson parce que c'est devenu pas un porte-bonheur, mais presque. Voilà, c'est quelque chose que si j'ai ma carrière de chanteur d'école, je peux vous assurer que je la chanterai chaque soir et encore 20 ans, même 30.
Bon, en tout cas, on va écouter Barbara dans un instant parce qu'on va l'écouter en avant-première. Donc ça, je suis super heureux de pouvoir faire partager ça à nos auditeurs, de pouvoir faire écouter ce single qui sortira donc mercredi, on rappelle, à l'occasion de la Journée nationale des femmes et du harcèlement, évidemment, parce que c'est un sujet énormément d'actualité. Tu en parlais tout à l'heure, mais hélas, voilà, on pourrait même parler de lourdeur et de beaucoup de choses, effectivement, dont sont victimes les femmes aujourd'hui, que ça soit dans les transports publics, mais en discothèque, au travail, voilà, c'est tous les domaines qui sont touchés aujourd'hui, donc c'est très chouette
c'est
de faire
chose,
ça.
Si je vous coupe, mais c'est quelque chose que j'ai vécu de près une fois dans le métro. Je rentre dans le métro parisien et j'entends les gens chuchoter. Alors, évidemment, à la facilité, tiens, c'est le PD de Plus belle la vie. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais vous savez, j'en ai entendu déjà.
Ouais, t'as dû en entendre d'autres, oui.
Et en me retournant, je vois une jeune femme assise sur un strapontin, mais blanche comme un linge. Et je regarde à côté. En fait, il y avait un homme qui mettait sa main, entre ses cuisses. Et elle était tétanisée. Et les gens le voyaient. Sauf que personne ne réagissait. Du coup, je me suis levé et j'ai engueulé le mec et je l'ai foutu dehors. Et le fait de le foutre dehors, toute la rame est sortie. Voilà. Et j'ai juste dit, ben voilà, le PD, ce qu'il arrive à faire.
Eh oui.
C'est quelque chose qui m'a marqué parce que on a tous la possibilité d'agir, surtout quand on est plusieurs. Voilà. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de ces gens-là. Surtout pas.
Exactement. Et puis, ben, mine de rien, sur toute la rame, il y en a eu qu'un qui a eu des, voilà.
Voilà. C'est exactement ce que mes amis m'ont dit justement.
Voilà. Bon, Laurent,
oui, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Voilà.
Laurent, il y a la musique évidemment, mais je suppose que t'as pas tiré un trait au contraire sur ta carrière de comédien. Alors la bonne nouvelle, elle vient de chez les 25 qui va reprendre des rediffusions de Plus belle la vie dans quelques jours, et ça c'est une super nouvelle pour les fans. J'imagine que t'as été inondé de messages d'espoir des fans qui ont tellement hâte de vous retrouver tous.
Ben oui, je suis encore surpris. Je le dis, c'est-à-dire que nous, les acteurs, en fait, on nous a dit voilà, ça s'arrête, donc il fallait bien qu'on aille de l'avant et puis qu'on cicatrise un petit peu parce que c'est 18 ans quand même de notre vie. Mais je suis toujours très ému et très très surpris aussi de voir que le public est toujours avec nous et que pour eux c'est toujours aussi frais, quoi. C'est comme si l'annonce était faite il y a quelques jours.
Ah oui.
Je vois les gens dans la rue. Il m'arrête pour dire, alors quand est-ce que vous allez reprendre, vous nous manquez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai publié il y a quelques temps quelques petites vidéos de la série il y a longtemps, et la plupart des gens me disaient, ça nous manque, ça nous fait un bien fou de vous revoir. Et du coup, j'ai fait une story sur mon Instagram en disant, voilà, peut-être que les DVD auraient leur place en pharmacie.
Ouais, c'est clair. Tu vois, on est le 6 mars aujourd'hui, Laurent. C'est vrai que les choses ont tellement été vite pour les fans. Mais aujourd'hui, 6 mars, ça fait juste un tout petit peu plus d'un an que les premières rumeurs de l'arrêt de la série ont commencé à fuiter, notamment dans le Figaro, en février l'année dernière. Donc tout ça s'est passé tellement vite. C'est vrai que ce soit pour vous, les fans, c'est assez fou, quoi.
J'ai pas senti du tout l'année passée. Disons que j'ai profité de la vie, mais c'est vrai que, il y a un an, presque jour pour jour, les rumeurs devenaient plus véritables, et c'est vrai qu'on tremblait un petit peu en disant non, c'est pas possible, ils vont au moins nous laisser 20 ans. Eh ben non, l'annonce a été dure pour nous émotionnellement parce qu'on est une famille, on est vraiment une famille, on a vraiment été liés sur les plateaux, alors pas spécialement avec tout le monde dans la vie privée, mais sur les plateaux on était vraiment liés. Et du coup, quand on nous dit, voilà, vous ne vous reverrez plus, la série s'est terminée, les décors vont être démontés. Je peux vous assurer, quand vous avez passé 18 ans sous les mêmes projecteurs, avec les mêmes personnes, ça fait un vide, et ça peut être vertigineux même.
Ouais, je me doute. Je comprends. Bon, en tout cas, l'espoir est là. Chérie 25, bientôt des rediffusions qu'on va pouvoir voir. Et
saison
puis,
8,
si on est très très nombreux, saison 8, donc sur Chérie 25, si on est très très nombreux à aller voir ces rediffusions, on peut imaginer le groupe Énergie 12 se décider et dire, tiens, mais pourquoi on relancerait pas des inédits? On en produit des pires, hein, largement.
Oui, alors ça, je ne sais pas, mais je pourquoi pas. Mais après, il y a plein d'autres possibilités. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais sans parler éventuellement d'une quotidienne, on pourrait éventuellement avoir un prime de temps en temps qui réunit les acteurs, les récurrents ou pas, avec d'autres évidemment, faire quelques histoires et chacun son petit heure de gloire, voilà. Mais il y a plein d'autres possibilités, voilà.
Bon, en tout cas, l'espoir est là, et
oui,
le premier espoir, c'est après-demain, Laurent. Barbara, ça s'appelle.
Oui,
vous allez pouvoir le télécharger légalement sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légal, évidemment. Et on va l'écouter en avant-première, rien que pour nous. Merci beaucoup, Laurent, pour ce cadeau.
Eh ben, merci à vous. Et bonne continuation, et on se reverra pour d'autres aventures, je l'espère.
C'est sûr. À très, très vite, Laurent. Merci.
Au revoir.
À la posture, un homme s'est approché de Barbara qui dansait. Coco en stock, il danse, il évoque. Il a oublié de l'embraser. Attentat, la tension est latente. Rien n'est encore sûr. Éliminer la mine et la soif de Méli-Mélo. Éliminer la mine, la soif de Méli-Mélo. Éliminer la mine, la soif de Méli-Mélo. Éliminer la mine.
mal à ses côtés, mal au tru, oui mal baisé, en torse à la nomenclature, retour à la procédure. Les mille et une nuits, c'est pas pour aujourd'hui. Éliminer la minée, la soif de Mélimélo. 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 Éliminer la minée, la soif de Mélimélo.
On se retrouve dans un instant avec les secrets de la grotte, avec les siffleurs, c'est nos coups de cœur télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
So cold, come that come for me. It's 3 a.m. I'm feverly. Help me, doctor, heal my pain. 'Cause I don't really want to marry Jane.
Oh là là là, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner.
We'll keep it simple. Ooh, doctor. Ooh, keep it simple. Ooh, you're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby.
Emmurer nos émotions. Parfois, ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier.
Ooh la la la, from my chimney to my jar, every bone and every part of his ache. Won't you, can't you see, got your brain to get to me. Any medicine you give me, I'm taking.
Keep it simple.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à la mini-série Les Siffleurs qui sera diffusée à partir de mercredi sur France 2 à 21h10. Une mini-série importante aujourd'hui sur le harcèlement de rue qui a été réalisée, créée, co-scénarisée par Nathalie Marchac et qui est justement notre invitée. On va en parler avec vous, Nathalie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un sujet important dont sont victimes aujourd'hui 6 femmes sur 10 qui ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. Et cette mini-série Siffleurs se veut suivre le parcours justement de Lila, incarnée par Ludmila Makovsky, qu'on va recevoir justement dans un instant, qui décide de prendre ses harceleurs en photo pour les dénoncer publiquement. Ça va y jouer des tours, évidemment. Comment est venue l'idée des Siffleurs déjà pour commencer, Nathalie?
Alors, l'idée est venue déjà de mon vécu personnel, puisque comme beaucoup de femmes, comme vous l'avez dit, eh bien oui, il m'est arrivé d'être harcelée dans la rue, agressée même, au-delà des sifflements, et que j'ai mis du temps un petit peu à y réfléchir, à comprendre ce qui s'était passé, pourquoi, etc. Et puis à un moment donné, avec aussi toute cette jeune génération de femmes qui, elles, considèrent que ben non, en fait, c'est pas forcément normal d'être une proie à chaque fois qu'on sort dans la rue, et ben ça m'a un peu réveillée. Et c'est vrai qu'ensuite j'ai vu donc un véritable compte Instagram avec une jeune femme. Ce compte s'appelait @dearcatcallers. Et cette jeune femme, à chaque fois qu'elle se faisait harceler, prenait un selfie d'elle avec son harceleur. Et je me suis dit que c'est très courageux. Et je me suis demandé qu'est-ce qui lui arriverait en même temps à cette jeune femme. Et là, c'est devenu un peu ben voilà l'histoire de la mini-série. Et tout à coup, au bout de quelques photos postées, elle disparaissait. Est-ce que tous ces harceleurs deviennent des suspects potentiels? Et je me suis dit, c'est intéressant de ramener la notion de danger, parce qu'on a tendance à se dire, bah, finalement, pas si grave, hein. Il y a eu pas mal de personnalités qui avaient dit, oh, faut aussi laisser la liberté d'importuner, donc c'est pas si grave de se faire un peu, voilà, siffler dans la rue. Mais qu'est-ce qui se passe, tout à coup, quand on ramène la notion de danger? Qu'est-ce qui se passe si une de ces jeunes femmes disparaît?
Nathalie, c'est symbolique de lancer cette mini-série mercredi, 8 mars. On sait que c'est une journée importante pour les femmes, ce 8 mars. C'est vraiment symbolique de lancer cette série-là. C'était voulu?
Oui, je crois que c'était une volonté de France Télévisions et je les en remercie. Je trouve que c'est un signal très fort.
Ouais.
France Télévisions qui œuvre aussi beaucoup pour les femmes, pour aussi la parité entre ses réalisateurs et ses réalisatrices. Donc oui, je suis très heureuse de cette date. Je trouve que c'est un symbole fort. D'autant que c'est, je pense, une mini-série qui s'adresse aux hommes et aux femmes, parce que on n'est pas non plus simplement en train de dénoncer ou de juger. On s'interroge, voilà, au cours d'une enquête, d'un polar, on s'interroge sur tous ces sujets-là. Donc je trouve ça très fort symboliquement que ce soit diffusé pour la Journée internationale des droits des femmes.
Alors ce qui est bien, oui, c'est vrai, vous le disiez, c'est pas un procès, cette fiction, c'est des constatations, c'est voilà, c'est quelque chose, on dénonce des faits, mais c'est pas un procès. C'est vraiment tourné de cette façon-là, c'est ça que j'ai bien aimé.
Oui, j'ai essayé de ne jamais être caricaturale et de m'intéresser aussi au profil de ces hommes qui, par moments, ben, voilà, franchissent une ligne ou passent à l'acte, et de se dire, mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que quelque chose vrille ou qu'ils s'y sentent autorisés ou... Enfin, je pense que c'est passionnant de s'intéresser à tout ça, de s'interroger, de faire un espèce de voilà, de constat aujourd'hui de notre société. Moi, je le dis, c'est vrai qu'il y a un personnage qui le dit aussi, c'est un peu le combat d'ailleurs du personnage interprété par Ludmila Makovsky, de dire, mais voilà, en fait, nous les femmes, on a des pulsions sexuelles aussi, mais on s'autorise pas, quand un homme nous plaît dans la rue, à le siffler, à lui dire, allez, et tout, suis-moi, viens chez moi, machin, tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que dans notre société aujourd'hui, on pense que c'est normal de faire ça à une femme? Voilà, ça m'intéresse de me poser ces questions, et dans le cadre d'un polar haletant.
Ouais, c'est vrai. Alors, Lila va disparaître et c'est toute une enquête qui va être faite pour la retrouver. Que s'est-il passé? C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Le casting est brillant autour de Ludmila et Marion Delage, Louise Massin, Nadia Farest, Stéphane Monpetit, que les fans d'Un si grand soleil vont être heureux de retrouver. Aussi, Léo Legrand, Antoine Chappé. Il y a vraiment du très beau monde, en tout cas, autour de Ludmila.
Charles Berling.
Charles Berling, bien sûr, le grand Charles Berling.
Voilà, et je le souligne parce que c'est vrai qu'il joue un rôle d'homme trouble et c'était vraiment aussi extrêmement courageux de sa part et je trouve qu'il le fait avec une immense humanité. Voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se passe à un moment donné, ce qui se passe dans ces moments un peu charnières où tout à coup ça bascule. Ouais, donc j'ai un beau casting, j'ai été entourée de magnifiques acteurs.
Bon, merci en tout cas Nathalie d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce et juste après on va donner la parole à Ludmila justement pour voir du côté comédienne comment s'est passé ce tournage, de quelle façon aussi elle s'implique là-dedans et on va en parler avec Ludmila dans un instant. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous.
Merci. Si je peux dire une dernière chose.
Bien sûr.
Voilà, moi, ce que j'adorerais, c'est que les gens regardent en famille, parce que c'est vrai que ce qu'on va entendre paraît, entre guillemets, un peu violent verbalement, mais c'est vraiment l'occasion de regarder en famille, de mélanger les générations, c'est vraiment tout public pour parler de ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a eu effectivement des gens qui sont venus à l'avant-première et qui ne devinaient pas que c'était arrivé parfois à leur fille, à leur nièce, etc. Et c'est vraiment l'occasion d'en parler. Donc voilà, j'espère que les gens se rassembleront en famille pour regarder.
Oui, regarder en famille. Et puis, il faut pas oublier que l'éducation commence jeune. Et voilà, n'hésitez pas à regarder. C'est regardable sans problème avec vos enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y voir. Ça pourra peut-être éveiller conscience et éviter plus tard justement ces débordements-là. Merci beaucoup Nathalie.
Absolument. Merci à vous. Au revoir.
La bande annonce Les Siffleurs, c'est mercredi à 21h10 sur France 2. Juste après, on se retrouve avec Ludmila Makoski.
Bonne toi.
Vous n'avez pas une idée de qui pourrait vouloir lui faire du mal?
Je comprends photo, toi.
Tous ces hommes l'ont agressé?
Harcelé.
Lila, elle a le courage de dénoncer le harcèlement de rue.
Tu peux m'expliquer pourquoi Lila avait l'intention de poster cette photo de toi avec elle?
Inédit, Les Siffleurs. Avec Nadia Farès et Charles Berling, mercredi 8 mars à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Et de retour, donc, dans Chute, on écoute la télé spéciale Les Siffleurs. C'est diffusé donc mercredi à 21h10 sur France 2. Et après Nathalie Marchat, quand vous l'avez promis, Ludmila Makoski qui est avec nous. Bonjour Ludmila.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous incarnez Lila, donc, dans cette fiction. Ludmila, un rôle difficile à la fois. Est-ce que vous êtes sentie un peu investie d'une mission, quand même, en quelque sorte, dans ce rôle de Lila?
C'est vrai que naturellement, malgré moi, je me suis retrouvée à incarner Lila et à avoir vraiment envie de la défendre parce que c'est un sujet très, très actuel aujourd'hui et la place de la femme est toujours un peu remise en question encore aujourd'hui. On arrive enfin à vraiment parler, enfin à faire un peu bousculer les choses. Je sais pas si je l'avais vu comme une mission, mais en tout cas, j'étais contente de défendre le texte de Nathalie Marchac parce que c'est un texte simple mais très très fort et qui peut parler à tout le monde, aussi bien les jeunes que, ouais, que les parents, les grands-parents. Voilà.
Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on disait avec Nathalie il y a un instant, c'est que on n'est jamais dans le jugement, on est dans les faits, on dépeint des faits dans son écriture, dans la façon dont vous incarnez Lila, mais on est toujours effectivement dans l'exposition des faits et la constatation. On n'est jamais dans le jugement, dans le procès, dans cette fiction. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'on informe avant tout.
Oui, oui, complètement. Ça, c'est Nathalie, elle a réussi le pari.
Bon, quelle a été la scène la plus difficile pour vous?
Il y a eu deux scènes très compliquées. La scène physiquement violente,
ouais,
parce que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Et du coup, nous, acteurs, on essaie toujours de se rattacher à des choses qu'on connaît. Là, j'étais complètement dans l'inconnu, j'ai envie de dire tant mieux. Hein.
Ouais, oui, vaut mieux.
Mais du coup, c'était très compliqué d'essayer de rendre quelque chose de réel, vu que je ne l'avais jamais vécu. Une deuxième, où là, je dis des aveux. Et pareil, c'était, je n'avais jamais vécu ça. Donc, comment dire toutes ces choses? Comment essayer de se faire entendre? C'était assez compliqué, mais Nathalie avait tellement un regard bienveillant que ça s'est très bien passé.
Mercredi, ça va être diffusé. Est-ce que vous vous apprêtez à recevoir des témoignages, des messages, des fois forts, des fois émotionnellement, qui vont peut-être vous dépasser? Est-ce que vous vous apprêtez à ça?
Eh bien, honnêtement, mais ça fait partie de mon caractère. J'ai tendance tout le temps et souvent à toujours tout minimiser et à pas me faire de plan sur la comète.
Ouais, à être optimiste quand même.
Oui, je suis très optimiste, mais j'ai tellement peur de tout le temps être déçue des résultats parce que je mets tellement d'investissement que s'il n'y a pas de retour, au moins je suis pas déçue. Donc c'est vrai, je me suis même pas posé la question, mais c'est vrai que maintenant vous êtes en train de me dire ça, je me dis que c'est vrai, c'est possible, et si ça arrive, je prendrai le temps d'y répondre parce que c'est un sujet important, mais comme pour les autres projets, je prends tout le temps d'y répondre parce que des personnes prennent le temps de nous écrire. Ça me paraît important, si on a le temps d'y répondre, de le faire.
Mercredi, c'est la journée internationale du droit des femmes. Les Siffleurs tombent à point nommé. C'est vraiment la fiction qu'il fallait dégainer pile poil le bonjour. Et là, vraiment, France Télévisions remplit sa mission de service public. On avait peut-être même du mal à imaginer cette fiction sur une autre chaîne. En tout cas, bravo à France Télévisions qui ose. On va évoquer les projets, Ludmila aussi. Oui. Lupin,
là, ouais. C'est la saison 2 qui va sortir très prochainement. J'ai pas les dates exactes.
On a hâte.
On est sur le coup.
Bon.
Bah, moi aussi, j'ai hâte.
Vous incarnez le rôle de Claire, le rôle de Ludivine Sagnier, jeune, dans cette série Netflix, évidemment, qu'on va surveiller.
D'accord,
alors,
ok.
Alors, il y a aussi une autre aventure, Ludmilla, The Voice. C'était samedi. Et là, les fauteuils se sont retournés. Donc, on a hâte de voir la suite de l'aventure. Mais c'est une nouvelle corde à votre arc qu'on découvre aussi. Ludmilla, chanteuse.
Exactement, ça fait un moment que je chante, j'avais un peu mis de côté pour me concentrer sur le théâtre et le cinéma et The Voice est arrivé dans ma vie mais vraiment comme un cheveu sur la soupe, donc j'y suis allée tête baissée et je suis très très heureuse d'avoir fait cette aventure parce que c'était une expérience de malade.
Amel Bent comme coach, pourquoi ce choix? Est-ce qu'il a été difficile déjà ce choix?
Le choix il a été difficile. Non, pas tant que ça. J'étais surtout stressée et un petit peu déconcertée de toute la situation. Je réalisais pas trop. Mais c'est vrai que Amel Bent avait des mots très rassurants. Et puis, je crois que comme c'est une femme et qu'elle est maman, il y a quelque chose qui m'a amenée vers elle et j'étais confiante en allant vers elle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Amel. Et puis c'est vrai que son univers me parle énormément. Ses musiques. Sa direction artistique, donc j'avais envie d'aller vers Amel.
L'aventure continue, maintenant on va voir les battles. Alors du coup, eh bien, tous les ans on essaie d'avoir un candidat qu'on suit évidemment et qu'on essaye de suivre tout au long de l'aventure. Donc on attend les battles, on se rappelle après, d'accord Ludmilla? Comme ça, on essaye de
et
faire
ben,
un
on
peu.
Après.
On se fait un petit suivi tout au long de l'aventure.
On fait un petit débrief.
Ouais. Et puis on croise les doigts, on est à fond derrière vous, d'accord?
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Bon, eh ben on fait comme ça. En tout cas, c'est la semaine, hein, Ludmilla Makovsky. C'est donc mercredi à 21h10 dans voilà. Les Siffleurs. L'aventure continue très bientôt avec les battles dans quelques semaines dans The Voice sur TF1 et puis Lupin. L'année 2023 va être belle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Beaucoup. À très bientôt.
Vous êtes tarés là, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis.
Je comprends photo, toi. Petite salope. Ben voilà, il n'y a plus de photos.
Non, tu parles plus là.
Tu veux faire la star, tu nous réponds pas.
Mais t'as vu quand je vais te baiser là.
Quand je vais t'enfoncer ma bite dans ton cul.
Tu vas kiffer, hein.
Ça va te faire mal, mais tu vas kiffer. Tu vas crier, hein.
Ah, ça se voit, c'est une petite salope.
Bien sûr. Faut l'encourager, c'est tout.
Et notre coup de cœur télé va être consacré au film Les Secrets de la Grotte qui sera diffusé samedi sur France 3. Et on avait promis d'être à leur côté, évidemment, même après la fin de Plus belle la vie pour tous leurs nouveaux beaux projets. Alors Laurent Kérusoré aussi est avec nous dans cette émission et fait du hasard, c'est Elodie Varlé qui nous rejoint. Bonjour Elodie.
Salut Alain.
Eh ben écoute, ça me fait plaisir de t'avoir pour Les Secrets de la Grotte où tu partages l'affiche avec Samy Garbi pour une enquête rondement menée à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche. Et franchement, les paysages sont magnifiques.
Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment tourné dans une région superbe que je connaissais assez peu et que j'ai découverte du coup en tournant là-bas. Alors, on a tourné dans une période où c'était à la fois, on a eu super chaud, super froid, de la pluie, enfin, ça a changé énormément. Donc, je salue au passage la post-prod qui a réussi à faire quelque chose de d'unique malgré les différences météo du tournage. Et le rendu, je le trouve vraiment effectivement très joli au niveau de la région, ça donne envie.
Alors, tout commence évidemment par un meurtre, comme tous les bons polars régionaux que propose France 3 avec la découverte macabre d'une jeune fille en canoë qui va découvrir tout simplement une personne dans une position précise avec une pierre dans la jugulaire. Et donc, c'est le personnage de Samy et celui de Manon que tu incarnes qui vont devoir mener l'enquête tous les deux. Mais au premier abord, il y a un léger... voire un grand froid entre les deux enquêteurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Oui. Alors, il s'avère que effectivement Manon est de base à Grenoble. Elle rejoint l'enquête. Elle est amenée à sa équipe avec Riyad Lekhtir, qui n'est ni plus ni moins que le frère de l'assassin de ses parents. Voilà. Donc évidemment, ça va amener. On va dire que il y a un bon petit froid entre eux.
Oui.
Mais ils vont au fil de l'enquête évidemment il y a des éléments qui se raccrocheront en fait à l'ancienne histoire qui les rassemble, qu'ils ont en commun, c'est-à-dire l'assassinat des parents de Manon, qui n'a pas forcément été mené comme il fallait.
Exactement, et peut-être que tous les secrets, en tout cas, de cette histoire n'ont pas été révélés, parce que si Manon tient pour responsable le frère de Riyad, est-ce vraiment lui ? Mm-hmm. Lui s'est suicidé en pleine garde à vue, si je m'abuse, et donc automatiquement, ça sème le trouble, parce que si même elle, en tout cas, le tient pour responsable, est-ce vraiment lui ? Est-ce que c'est une question à laquelle on va répondre, en tout cas ?
Bien sûr, c'est une question qui va être soulevée tout au long du téléfilm et qui va du coup définir beaucoup les relations entre les deux enquêteurs et qui aura un impact sur le ou les meurtres qu'ils vont devoir élucider.
Comment tu la définirais, toi, Manon ?
Manon, c'est une femme assez libre, assez têtue et sentimentale, malgré elle.
Sentimentale malgré elle. Alors, c'est pas le premier mot qui me serait venu à l'idée dans les premières minutes, ça c'est vrai. Mais
non,
elle sait ce qu'elle veut, en tout cas.
Pas du tout. Oui, elle sait ce qu'elle veut et elle se laisse absolument pas marcher sur les pieds. Elle ne veut pas, en fait, laisser paraître quoi que ce soit auprès de ses supérieurs ou de son partenaire d'enquête. Elle veut faire face, mais elle est rattrapée par son passé, en fait, et par tout ce qui a entouré le point de clé de sa vie qui a été effectivement l'assassinat de ses parents quand elle avait 8 ans. Quand elle revient donc à Vallon-Pont-d'Arc, notamment dans sa famille aussi adoptive, etc., tout lui revient dans la tête avec ce meurtre qu'elle doit élucider et le partenariat avec Riyad Lexir. Donc elle va devoir aller de l'avant et se confronter, on va dire, à son passé. Et je dis sentimentale malgré elle parce que c'est par rapport aussi aux enfants. Elle a un rapport un peu aux enfants où elle fait la forte tête comme ça et. Elle fait très libre et en fait elle se laisse emporter par la douceur des filles, notamment de Riyad Lexir, qui va finalement lui permettre de s'ouvrir.
Alors il y a un tournant à un moment donné justement dans cette histoire entre Manon et Riyad. On va pas en dévoiler beaucoup plus, mais il y a vraiment un tournant où on a l'impression que la carapace de Manon se fend. C'est au moment où il arrête la voiture dans une patte d'oie face à l'ancienne maison et où il va mettre les pendules à l'heure, effectivement.
Exactement.
Riyad avec Manon, et on sent un tournant justement à ce moment-là entre ces deux protagonistes.
Il y a un tournant parce qu'il y a une prise de conscience
de Manon.
Je pense que Manon ne s'est absolument jamais mis à la place de la famille Lexir, c'est-à-dire de la famille de ses parents, et elle ne s'est pas imaginé que eux aussi ont souffert et de la manière dont eux ont aussi vécu la mort de leur enfant ou de leur frère. Et pour la première fois, lui qui est au début assez gentil et fait attention à Manon, il va à un moment donné éclater, et c'est là où elle va réaliser qu'elle est un petit peu égoïste dans la manière dont elle prend les choses, puisqu'elle se met pas non plus à la place des autres. Donc à partir de là, il y a un respect qui s'instaure et aussi une curiosité de ce qui s'est passé aussi pour cette famille. De la part de Manon, elle va essayer de comprendre un peu mieux.
Un casting génial autour de vous. Serge Rabiot-King qui joue le rôle de ton père adoptif. On peut citer évidemment Éric Savin, Carole Richard, qu'on a tellement plaisir à voir aussi sur nos écrans. Anne Girouard également, qui joue le rôle de celle qui garde la grotte, le musée de la grotte.
Oui.
Enfin, y a vraiment un très beau casting autour de vous deux.
Très beau casting, vraiment des personnes... Des super partenaires. Anne, elle était super. Enfin, vraiment, on a eu plaisir tous à être ensemble. Et puis, il y a toujours une saveur particulière quand on est en région, puisque on partage non seulement nos journées de tournage, mais un peu les soirées. Et il y a eu une très bonne ambiance sur ce tournage. Donc, j'espère que ça va se ressentir, parce qu'on était très heureux de faire ça. On était bien ensemble là-bas, et l'équipe était assez idyllique. Donc, j'espère que ça se ressentira.
Bon. T'as des projets pour 2023? Qu'est-ce qui nous attend, Élodie? Est-ce qu'on va te voir bientôt au théâtre, cinéma, télévision? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent un petit peu à l'horizon?
Je tourne pour un autre téléfilm, pour France 2 cette fois-ci.
Ouais.
Qui s'appelle À fleur de peau, avec Flore Bonaventura et Raphaël Langlais.
Que t'embrasseras très fort, Flore.
Écoute, très bien, ça sera fait, je la vois demain. Donc, je lui dirai. Donc ça, c'est un super rôle aussi, qui est encore très différent de ce que j'ai eu à faire jusque-là. Donc je suis ravie d'être sur ce joli film parce que c'est un thriller assez psychologique réalisé par Christian Bonnet. Et voilà, et après ben en fin d'année dernière, j'ai commencé à faire un petit tournage pour une série pour TF1 et le normalement la série se poursuit cet été. Donc voilà, des petits projets et puis après des projets d'écriture, des projets perso, plein d'envie.
Bon.
Et plein de mon temps est bien rempli. Ne t'inquiète pas. Alors.
Eh ben écoute, comme ça te permet de revenir régulièrement dans Chute on écoute la télé, tu sais que t'es à la maison.
Ouais, je sais bien et c'est très agréable.
Bon, dernière petite question évidemment sur Plus belle la vie. Depuis la fin de la série, les rumeurs enflent autour d'un retour éventuel. La Scope qui en tout cas défend le projet du retour espère toujours et convaincre en tout cas aussi Newen de lui céder les droits. Est-ce que toi tu serais partante en tout cas pour si la série revenait pour reprendre même épisodiquement ou de façon événementielle le rôle d'Estelle?
Bien sûr, après il faut encore une fois ce projet paraît assez fou et je sais vraiment pas si on peut compter là-dessus parce que tout simplement il n'y a plus les décors. Moi j'ai la sensation que s'ils avaient dû céder les droits, peut-être qu'ils l'auraient déjà fait. Ça a tendance à s'étirer un petit peu en longueur, donc malheureusement j'y crois de moins en moins, j'avoue.
Bon, voilà. Mais Estelle Cantorel n'a pas dit son dernier mot puisque dès le
mais
13
après,
mars sur Chérie 25, c'est le retour dès la saison 9 dans laquelle tu es de Plus belle la vie sur Chérie 25. Donc Estelle Cantorel n'a pas dit son dernier mot.
Non, bien sûr que non, mais de toute façon, ça perdurera. Hein. C'est historique maintenant, Plus belle la vie. Donc il y aura toujours un petit peu, des diffusions et des gens pour revoir avec plaisir nos personnages.
Et les fans sont là, je peux vous dire, ils sont actifs derrière vous.
Bah, tant mieux. Et ça, c'est bien qu'ils ne... D'ailleurs, c'est faut saluer ça parce que les fans, on avait tous des appréhensions, beaucoup aussi sur la suite. Et je suis agréablement surprise de la manière dont ils nous suivent ailleurs, dont ils sont intéressés par nos projets. Il y a des super messages, donc c'est hyper touchant et c'est vraiment grâce à eux, je pense aussi qu'il y aura un après Plus belle la vie pour chacun. Donc c'est important de le dire.
Bon, on termine en embrassant les frères Bernard qui produisent cette fiction chez Adrénaline, qu'on embrasse, et puis Christelle Reynal à la réalisation également.
On aime beaucoup, oui.
Merci beaucoup.
Et bravo à elle d'ailleurs, elle a mené ça avec brio, donc bravo à Christelle.
Avec de très belles images, vous verrez. Secret de la Grotte, c'est samedi donc à 21h10 sur France 3, rediffusion de Plus belle la vie dès lundi prochain 12h45 sur Chérie 25. On va en avoir, je vous le dis, du Élodie Varlet à la télé, ça va nous faire du bien, très vite. Merci beaucoup Élodie.
À très vite, merci Alain, salut.
Je vous présente le capitaine Riyad Lexia, vous allez faire équipe avec lui.
Je crois qu'on se connaît déjà.
Eh ben c'est une bonne nouvelle.
C'est pas l'expression que j'utiliserai.
Commandant, je peux vous parler. Excusez-nous. Je vais pas pouvoir travailler avec elle. Pourquoi donc? C'est compliqué à expliquer. Compliqué, quoi compliqué?
Compliqué.
Ce que le capitaine Lexia n'arrive pas à vous dire, c'est que son grand frère a assassiné mes parents quand j'avais 8 ans.
Non, mon frère n'a jamais été jugé pour ça.
Non, c'est vrai. Il s'est suicidé en garde à vue.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à La Syndicaliste qui sort mercredi dans les salles. Le nouveau film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs et Grégory Gadebois. Et on a aujourd'hui Maureen Kearney qui a été en fait l'inspiration de ce film. Bonjour Maureen, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci d'être là.
Alors c'est votre histoire qui est racontée dans ce film, l'histoire d'une lanceuse d'alerte il y a 10 ans qui a été agressée à la suite des révélations qu'elle a pu faire. On est vraiment dans l'impression, même si c'est un biopic, une histoire vraie, qu'on est dans un thriller politique incroyable et tellement encore d'actualité aujourd'hui 10 ans après, c'est ça qui est assez dingue.
Je suis entièrement d'accord. Hein. Notre combat à l'époque, c'était vraiment la sauvegarde du savoir-faire, des compétences et des emplois dans l'industrie nucléaire. Et aujourd'hui, on voit qu'on a perdu tous nos combats concernant l'industrie nucléaire. Hein. Et le fait que j'étais agressée, pour moi aussi, c'est un échec total.
Alors, 10 ans après, cette histoire arrive sur grand écran. À quel moment Jean-Paul Salomé est venu vous voir en disant « Je voudrais mettre sur grand écran cette histoire, il faut absolument qu'on la montre, que même si l'affaire a essayé d'être étouffée à la base, bien qu'aujourd'hui elle puisse être exposée au plus grand nombre et qu'on puisse découvrir votre histoire derrière tout ça. »
Bon, il me semble que c'était en 2019. C'était avant le Covid, ça c'est sûr, c'est un peu en référence la date du Covid là. Et c'est Bertrand Fèvre, le producteur, qui m'en a parlé en première. Donc j'ai rencontré Jean-Paul Salomé avec la scénariste. Ça s'est bien passé. Et donc, c'était parti, l'écriture. Hein.
Vous avez des réticences au départ, vous avez hésité?
Non, pas du tout. J'ai fait confiance. J'avais très confiance en Denis Robert. Et comme le projet est parti de lui, j'ai suivi, en fait, en ne pensant que ça allait jamais se réaliser.
Quand vous avez su que c'était Isabelle Huppert qui allait vous incarner, ça a donné confiance aussi, quelque part, au projet?
Énormément. Hein. Il y a une petite histoire qui est sympathique. J'ai été étudiante à Aix-en-Provence dans les années 70. Hein. Et le premier film que j'ai vu en français à Aix-en-Provence, c'était Lancôme Lucien, dans lequel joue Isabelle Huppert. Et je me rappelle très bien, et ça m'est resté, et je ne sais pas pourquoi, à l'époque, où cette jeune femme, je me dis, mais elle pourrait être irlandaise, elle, je suis irlandaise, hein. Avec ses cheveux, avec son visage, c'est incroyable qu'il y a des Français qui ressemblent à des Irlandaises. Et c'était dans les années 70. Hein. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour, cette femme si talentueuse pourrait me jouer. Quoi. Moi, ce n'était pas mon monde, ce monde-là.
Hein. On ressent quoi quand on voit le film pour la première fois? Quand vous voyez votre histoire défiler devant vos yeux de cette façon-là?
C'était très, très difficile la première fois où j'ai vu le film. Hein. J'ai mis plusieurs semaines à me remettre. Parce que quand on le vit, j'ai dit tout à l'heure, c'est une chose de vivre quelque chose de l'intérieur. Mais de voir quelque chose qui m'a très perturbée, c'était Maria, la femme de ménage. Je ne m'étais jamais imaginé qu'est-ce qu'elle avait vu. Et là, quand elle arrive et quand elle me voit, et je me suis dit, cette image, moi, je n'avais pas l'image, j'avais le vécu, qui n'est pas la même chose. C'est très étonnant. Et j'ai beaucoup pensé à Maria pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et cette scène qu'elle a découverte, parce qu'elle était très malmenée aussi par les enquêteurs. Hein.
Votre histoire, quand vous la vivez effectivement de l'intérieur, comme vous l'avez vécu avec toute la pression médiatique à l'époque, la pression politique, aujourd'hui, il y a une certaine forme de grande générosité de votre part aussi d'avoir laissé livrer cette histoire au public. Parce que c'est quand même de vous qu'on parle justement dans ce film. Il faut vraiment une grande générosité pour accepter de faire ça.
Les Français ont été très généreux avec moi. Hein. Je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu mes proches, mes amis. Mais il y a une solidarité, un soutien qui s'est formé autour de moi par des Français que je ne connaissais même pas. Donc, c'est normal que je puisse rendre aussi un petit peu. J'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai beaucoup reçu. Et pouvoir rendre un petit peu, je trouve ça normal. On est interdépendant dans la vie, on est trop individualiste, je crois. Et c'est notre façon à nous de résister encore, un tout petit peu. On a le pouvoir de dire non, ça ne me convient pas.
Vous regrettez rien? Vous referiez tout pareil si vous saviez un petit peu comment ça allait se passer? Ou est-ce que aujourd'hui vous auriez, si vous aviez pu faire en tout cas un retour en arrière, vous auriez fait différemment?
Je n'aurais jamais dénoncé quoi que ce soit. Si j'avais su que j'allais vivre cette agression et tout ce qui a suivi après. Je ne suis pas en héroïne. Hein. On ne devient pas en héroïne parce qu'on a été agressé. C'est ce qu'on fait avec à les limites qui puisse nous aider à remonter la pente. C'était trop dur. Voilà.
On imagine bien. On va découvrir votre histoire sur grand écran mercredi au cinéma. Ça s'appelle La Syndicaliste. Vous êtes incarné par Isabelle Huppert. Il y a Yvan Attal, Marina Foïs, Grégory Gadebois. Un casting incroyable autour de cette histoire de Jean-Paul Salomé à qui on devait déjà la daronne avec Isabelle Huppert il y a quelques années qu'on avait reçu. On vous embrasse, Maureen. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir passé ces quelques minutes en tout cas en notre compagnie.
Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être là.
À bientôt.
À bientôt.
Et tout de suite, la bande-annonce.
Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire?
Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose?
Vous avez des ennemis?
Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva.
Vous pouvez nous en dire plus?
Proglio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement.
Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups.
Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié.
Vos questions à la direction, vous gérez bien d'auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui?
Faites attention.
Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier.
Fais gaffe, hein, c'est toi toujours dans la cour des grands.
Madame Kearney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
Mais j'étais violée.
Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé?
Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas.
Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite?
C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme.
Arrêtez de dire mon scotch.
Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau.
T'es vraiment devenu obsessionnel. C'est chiant, la longue.
Vous êtes toute seule.
Ils se sont jamais fait, surtout par une femme.
Mêle-toi de tes affaires. Dernier avertissement.
Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté.
Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché.
Vous passez du statut de victime à celui de suspect.
Il est dangereux, ce type.
Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes.
Vous trouvez pas que ça a assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité.
Allez, ça va être un peu son année dans Chute, on écoute la télé. Il reviendra d'ailleurs d'ici quelques semaines nous parler de Jour Sauvage avec Alain-Fabien Delon, David Lanzmann et toute l'équipe. Redouane Arjane est notre invité aujourd'hui. Il sera à l'affiche de Ouria dans quelques jours. Bonjour Redouane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. T'es aussi en ce moment en DVD, pour le coup, dans Nouveau Jouet. Et puis, bien sûr, des tournées à guichets fermés partout en France. Redouane, ça va plutôt bien en ce moment.
Oui, alors, bien. L'essentiel, quoi qu'il arrive, c'est d'être bien mentalement, dans sa santé mentale et puis sa santé physique. Mais ouais, ça va. On arrive à respirer après ces deux années de Covid.
Le Nouveau Jouet, c'était une aventure incroyable avec Jamel Debbouze, qui est un peu ton mentor, faut pas se mentir quand même. Et c'était une sacrée aventure, ça, de jouer dans un classique du cinéma comme celui-là, revisité. C'était génial, ça.
Alors, là où c'est intéressant sur Le Nouveau Jouet, c'est qu'effectivement, j'ai pu côtoyer mon mentor de plus près dans le travail. Moi, je ne l'avais jamais côtoyé sur un plateau de tournage, je l'avais toujours côtoyé sur le Jamel Comedy Club en tournée ou sur les tournages de l'émission de télé, mais on est dans un tournage plutôt propre à la notion d'humour et de seul en scène. Là, je voyais vraiment l'acteur, donc ça m'a permis de découvrir une autre facette de mon mentor. Et pour ce qui est du fait qu'il s'agit d'un remake ou d'une réadaptation d'un classique, je me suis pas vraiment parce que mon personnage n'existe pas dans le film original, donc je me suis pas imposé cette épée là de qu'est-ce qu'ils vont dire. Là, on est dans l'époque, on est dans notre époque. C'est un film social, celui d'origine et aujourd'hui, c'est un film sur la fracture sociale, mais en même temps, comment s'amuser, comment rire de ce qui nous pousse vers le bas, ce qui nous traîne vers le bas. Éclat total. Je me suis amusé.
Ouais, ça m'étonne pas. Alors Ouria, c'est une autre aventure. On recevra d'ailleurs Mounia Medour et toute une partie du cast la semaine prochaine dans Chute, on écoute la télé. Mais on va commencer déjà à en parler puisque ça a été un des grands prix du festival d'Angoulême. C'est une belle aventure qui a démarré comment pour toi? Parce qu'il y a quand même une petite histoire dans la grande là.
Oui, tout à fait. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai fantasmé travailler avec Xavier Jean, ce qui est donc le mari de Mounia Medour. On aurait voulu développer ensemble un projet, un film. C'est encore en cours, c'est assez nébuleux. Mais j'ai eu la chance donc de rencontrer Mounia Medour par le biais de Xavier. Et puis, très vite, s'est répandue la rumeur qu'elle travaillait sur un film qui s'appelle Ouria. Et il s'avère que Ouria, c'est le prénom, ce fut le prénom de ma maman. Ma maman s'appelait Ouria. Donc ça tombait quasi pile au moment où je venais de perdre ma maman, de la perdre. Mais il fallait que je sois dans ce film. Donc voilà, la petite histoire dans la grande histoire.
Alors, du coup, tu incarnes quel rôle?
Alors j'incarne un policier algérien qui prend la plainte de l'actrice principale Lina Koudri, accompagnée donc de Rachida Brakni, qui interprète sa maman dans le film. Et je suis l'un des policiers qui prend cette plainte. Mais avec toute l'absurdité de l'idée qu'on se fait du système administratif judiciaire algérien.
Toutes les grandes histoires qu'a pu nous tourner Mounia, qu'on avait reçues pour Papicha d'ailleurs, aussi, voilà, en spécifique, le film Ouria a été aussi tourné en Algérie. C'est une belle aventure qu'on évoquera évidemment la semaine prochaine avec le reste de l'équipe. Quel souvenir tu gardes du coup, toi, de ce tournage et de ce petit rôle?
Waouh, bah déjà c'est... Je garde le souvenir le plus marquant, le plus percutant que j'ai. Déjà, c'est le calme avec lequel Mounia Medour gère son plateau. Ça m'a assez impressionné. Pas parce que c'était une femme ou pas parce que c'est une femme, mais parce que je voyais au fond d'elle, elle savait de quoi elle voulait parler, la maîtrise. Voilà, j'étais impressionné par ça. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est Lina Koudri.
Elle est incroyable, Lina.
Non, mais incroyable. J'ai halluciné. Si jeune, si fragile, et pourtant... Généralement, on parle comme ça d'acteurs ou d'actrices qu'on ne côtoie pas ou qu'on n'a pas eu la chance de côtoyer ou de connaître. Là, j'ai vraiment pris une gifle, vraiment. Parce qu'elle interprète une danseuse étoile dans ce film. Et jusqu'à preuve du contraire, Lina Koudri n'était pas danseuse étoile. Et c'est fou de voir à quel point physiquement, la perte de poids, l'engagement émotionnel, l'engagement mental... j'ai découvert une grande actrice sur ce plateau.
Alors, il y a plein de projets qui se préparent. On a pu se voir au Festival de Luchon, tu as présenté The Good Loaf, qui est une compétition de stand-up. Alors ça, c'est, tu retournes un peu tes origines quand même, là. Ne se mentons pas.
Ouais, moi je les ai jamais vraiment quittés, mais en tout cas, c'est-à-dire, The Good Laugh, c'est une émission de compétition de stand-up, en fait. C'est le premier fight club de l'humour. L'idée, en gros, c'est que on se donne rendez-vous dans des hangars désaffectés, et c'est à celui qui fera la meilleure vanne, c'est à celui, le meilleur combattant de l'humour. Et puis c'est aussi une émission de télécrochet, c'est-à-dire qu'elle va permettre aussi de révéler des talents, des nouveaux talents.
Un peu comme à la grande époque d'On ne demande qu'à en rire ou du Jamel Comedy Club, effectivement.
Tout à fait, avec Nicolas Paratian qui est le producteur donc, et réalisateur du pilote en tout cas. Et c'était un peu la trame de départ. Prenons un peu le meilleur d'On ne demande qu'à en rire, le meilleur du JCC, du Jamel Comedy Club, le meilleur de tout. Prenons le meilleur parce qu'en France on a quand même la chance d'avoir des créateurs et des créatrices assez efficaces. Donc prenons le meilleur de ce qu'ils ont ouvert comme porte, mais amusons-nous aussi, allons vers ce qui n'a pas été fait. Donc qu'est-ce qui n'a pas été fait? Changer de décor, aller toujours dans un décor un peu sombre, un peu étrange, et amusons-nous dans ce décor. Qu'est-ce qui n'a pas été fait aussi? Amusons-nous en termes de capacité technique. Donc là, on travaille avec des caméras, on est vraiment dans un truc innovant qui ne s'est jamais vu et jamais fait à la télé, pour un format original français. On est dans le savoir-faire français, tout en étant dans le respect de ce qui se fait à l'international, mais en même temps, on sait très bien faire chez nous.
Quelle volonté pour vous sur ce programme? Programmé sur une grande chaîne nationale, TNT, plateforme, YouTube.
Nous, on aimerait bien, avec Nicolas Paratian, on s'en parle régulièrement, on aimerait bien aller vers les chaînes qui sont celles qui ont ouvert la voie. Donc, évidemment, on aimerait bien Canal+, on aimerait... Mais après, on s'interdit rien, on aimerait travailler avec des personnes comme Gulli, on aimerait travailler avec des personnes pour RMC Découverte, pour d'autres projets aussi qu'on développe avec Panga, qu'on aimerait développer. On ne s'interdit rien, on aimerait juste avoir en face des interlocuteurs ou des interlocutrices qui nous comprennent et qui comprennent là où on veut aller et puis y aller ensemble.
Qu'on prenne le format tout simplement et qui puisse permettre de découvrir des viviers de talents et qu'on continue à en découvrir parce qu'on en possède énormément, dont tu fais partie. Alors la scène, Redouane, c'est pourquoi? Parce que là, tu as tourné énormément de 2018 à 2020 dans ton dernier spectacle. Où tu en es là-dessus? Est-ce que tu as envie de revenir sur scène rapidement en tout cas?
Rapidement, pas particulièrement rapidement. Je suis pas dans un truc où faut le faire. Mais en tout cas, il va falloir le faire et il va falloir le faire bien. Donc là, je suis dans la reprise de... Je suis dans l'écriture de mon nouveau spectacle. Je travaille avec Cyril Cohen, qui est l'auteur, co-auteur du Burger Quiz et aussi du dernier Late Show de Chabat sur TF1. C'est mon collaborateur artistique sur ce nouveau spectacle.
Génial. 2024, a priori, 2025 plutôt.
Là, on commence à partir de mars à faire des salles de 400-500 places.
Rodage.
Oui, voilà. On est dans le pré-rodage. Septembre, on sera dans le vrai rodage jusqu'à décembre, où là, on va ouvrir des salles de 500, 600, voire peut-être même 800. Mais dès 2024, avril 2024, là, on est déjà en train d'ouvrir, on est déjà en train de fantasmer des jauges de 1200, 1500 places.
Là, ça s'appelle comment ce spectacle? Tu sais déjà ou pas? Ou c'est pour l'instant, c'est top secret?
C'est pour le moment top secret, mais je sais déjà comment il va s'appeler.
Et ben voilà, Redouane Arjane, bientôt de retour sur scène. En tout cas, on te retrouve dans Ouria. Ça sera très très prochainement, dans quelques jours, au cinéma, dans le nouveau jouet en DVD également. Et puis, tu reviens très vite, puisqu'on te retrouve dans quelques semaines pour parler de Jours Sauvages. Alors, tu nous ramènes Alain Fabien Delon, tu m'as dit, David Lanzmann, quasiment, oh non, mais quasiment toute l'équipe va être là, quoi.
J'espère bien, ouais. Michael Fitoussi, Lola Aubrière, David Lanzmann, Éric Lafosse, plein d'acteurs et d'actrices formidables. Lola Aubrière, je pense que c'est une actrice qui va faire parler d'elle. Là aussi, sur ce film, j'ai découvert une actrice, ouais. C'est fou, hein, le savoir-faire qu'on a en France. Et puis, bon, je peux me permettre aussi.
Allez, vas-y.
Alain, pardon. On a aussi un beau film, le premier film de Noé Debré, qui est le scénariste de Jacques Audiard. J'ai eu la chance de tourner avec Agnès Jaoui dans ce projet. Et hâte de voir le film aussi.
C'est prévu pour quand ça, le film de Noé?
Je pense que là, on va être courant 2023, ouais, c'est ça, je pense. Peut-être même début 2024, hein, on va savoir.
On t'attend avec toute l'équipe, en tout cas en avril, pour parler de Jours Sauvages. Merci beaucoup Redouane d'avoir été avec nous. On se quitte avec un petit extrait d'Ouria et on se dit à très bientôt du coup.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Karima, habsi les sphinx au selecto, tachli kershuk et serre les fesses. Bon,
surprise, Evio.
5000. Grâce à Trump ou Poutine, ok?
Premier combat, Poutine versus Shakira. Poutine vainqueur.
Mais tu coules si, hein?
Perdez les drames.
C'est un jeu, t'as perdu.
Vous avez fait un grave accident, Houlia.
Houlia, ça donne. Quelle chose?
Il est muette.
Pourquoi vous avez relâché Ali?
Madame, la justice, elle a fait son travail.
C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. Ouqsim billah, ana n'aoud ntakhlou l'habs.
C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence.
Al khair.
Je m'en fous.
Quand tu as appris quelques mouvements.
Et on se retrouve dans un instant pour la suite de Chut, on écoute la télé avec Lucien Jean-Baptiste et Elena Noguera pour BDE et Alexandra Redamiel, responsable et directrice des divertissements et des programmes de flux de France Télévisions. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Passer des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes gammes, au stylo tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer mon flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames. T'as rallumé la flamme, mais comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Pour chanter mon je t'aime, je n'aurai jamais la flemme. Au jeu des feux de l'amour, je t'aime sans réfléchir. T'as pas besoin de tes gammes pour jouer dans mon game. Je te déclare ma flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames. T'as rallumé la flamme, mais comme jamais je crame, oui comme jamais.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, BDE, c'est le film en ce moment sur Amazon Prime. Un rendez-vous à ne pas rater, vous allez beaucoup rire. Et on va continuer à en parler cette semaine avec Elena Noguera et Lucien Jean-Baptiste qui sont avec nous, qui jouent les rôles de Roman et Max. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Un film complètement déjanté. On rit du début à la fin. Un rythme effréné. Vous avez dû vivre un tournage endiablé, tous les deux.
En effet, c'était endiablé, endiablant, magnifique, magnifiant. À toi.
Voilà, c'est vraiment ça. C'était une superbe aventure. J'aime à dire, vous savez, il y avait une très belle phrase. Alors, je sais pas combien de temps ce que je vais dire va durer, mais on va essayer de faire court. Il y a Coppola qui avait dit, il avait fait une conférence de presse après le tournage d'Apocalypse Now. Et il avait dit, ce film n'est pas sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Eh bien, ce film, c'est pas une histoire sur les fous, mais c'est une histoire de fous. C'était magnifique. Et surtout, et j'insiste là-dessus, ce film est une incroyable histoire d'amitié. Vraiment, j'ai ressenti ce truc. propos.
C'est vrai, c'est une histoire vraiment de quatre amis où l'amitié est indéfectible au fil des années et qui aiment se retrouver tous les ans pour faire perdurer en fait leurs années lycée, leurs années fac en quelque sorte.
Oui, oui.
Bah, ils ont gardé leur âme d'enfant. Bah, c'est ça qui est génial.
Voilà, vous avez bien dit, c'est ça. Mais je sais pas quoi trop rajouter.
Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans le scénario de Michael, justement, quand vous l'avez lu? Qu'est-ce qui vous a en premier subjugué?
Moi, c'est l'aventure avec Michael. Parce que j'avais eu la chance de tourner avec lui précédemment. Et je sais que c'est un bosseur et que ça allait aller très loin. Moi, je suis plutôt réservé, timide.
C'est vrai.
Voilà, dans mes films en tout cas. Et là, c'est l'occasion d'aller lâcher, d'aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables comme Elena, avec qui on avait déjà tourné un film Turf, voilà, il y a quelques années. Et on s'est retrouvés et c'est très, très agréable.
C'est ça, c'est un film sur l'amitié, c'est aussi un film transgénérationnel où il y a un passage de relais entre les anciens et les plus jeunes.
C'est une espèce de choc des générations, finalement, entre les diplômés de 2021 et puis ceux de 2001 dont vous faites partie. La transmission, c'est vrai.
La transmission des fêtards, ça se transmet.
Oui, c'est ça.
Il y a une bande son qui est énorme aussi. Moi, j'adore la scène de la voiture où vous chantez à tue-tête. Et là évidemment, ça c'est faut laisser plein de surprises, mais en tout cas, on va pas dire les titres que vous chantez, mais franchement, il y a des titres qui finalement cette année en 2023 ont pas pris une ride. La scène qui vous a le plus marqué?
Et tu vois, je suis chiant, mais enfin, je suis très ennuyeux parce que je reviens sur ce télécabine. On était là-haut tous les quatre.
C'est resté combien de temps là justement?
Oh là, je sais pas, longtemps en tout cas.
Une nuit.
Voilà, une nuit. Et je sais pas, on était entre. Moi, j'aimais bien quand on était entre nous. Oui. C'est bizarre, hein.
Tous les quatre.
Ouais, parce que sinon, quand il y avait plein de monde, alors là, c'est tu vis le truc. Enfin voilà, gestion. T'as vu le film? Il y a tellement de monde, de figurants et tout ça. Donc ça faisait vraiment du bien se retrouver à quatre, de prendre le temps de se dire les choses, tout ça. Non, c'était palpitant.
Le ouais. Calme de la nuit.
Et donc c'était ouais. Ça ma scène préférée, être dans les télécabines avec mes quatre amis à se parler, à se dire les choses, voilà.
Moi j'aimais bien engueuler les méchants, les quatre gitans là, ouais. Quand je dis ah
oh,
même pas peur,
oh là là,
il va t'arracher la gueule. Voilà, j'aimais bien dire ça.
Ouais. Et puis, très belle scène, Jean-Luc Couchard et Pierre Lottin sont sont excellentissimes dans ces rôles-là en plus.
Ouais, ils sont fantastiques.
Franchement, j'ai l'impression que vous nous avez fait passer un bon moment, évidemment. Mais vraiment, l'impression qui en ressort général, c'est que vous avez passé, en tout cas, de très bons moments. Donc voilà, je suis content de voir qu'effectivement, il y a plein de choses qui en ressort de ce tournage. Et il se passe plein de choses. Vous allez voir, le rythme est effréné. Vous, quand vous l'avez vu monter la première fois, c'est ce qui vous a surpris en premier. Justement, c'est l'amitié qui transpirait. Du coup, tu disais, toi, Lucien.
Pour moi, oui, vraiment, j'ai dit, tiens, c'est un aspect du film, tu vois, je pensais que c'est que de la déconnade, etc. Ben non, les films transpirent toujours leurs auteurs et je sens que finalement, Michael dit beaucoup de choses sur ce qu'il est, sur son envie d'amitié, sur son besoin d'être entouré, tout ça à travers ce film. Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti ça, j'allais pas regarder le montage, machin, je m'en fous. Ce qui m'est resté, j'ai dit, tiens, tu vois, le mec... Il a besoin d'être entouré, il aime bien faire la fête, ça parle beaucoup de lui finalement. Non, parce que ce garçon a une image de petit hystérion comme ça, et il a quand même pas mal de profondeur, bizarrement qu'il exprime de façon très étrange. Mais tu vois, il pourrait se dire, bon, je fais un film, c'est que de la déconne, pas besoin de parler de cette histoire d'amitié. Ben non, il en a besoin. Ouais. Qu'on lui dise on t'aime, qu'on lui dise on est avec toi, qu'on sait très bien tous les efforts que tu fais pour que tes copains jouent dans tes films, pour que tu fasses des films depuis tant d'années. Voilà, il a besoin de ça.
C'est vrai, Elena la caisse. Si on Amazon Prime Video, vu le succès planétaire que va faire BDE, parce que l'avantage d'une plateforme, c'est que vous êtes vu dans le monde entier, il leur prenait d'aventure de vouloir faire un 2. Est-ce que vous seriez partant, vous, en tout cas?
Ah oui.
Bah oui, avec joie.
Ah oui, 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 alors là, demain matin. Hein, Michael, pour le 2. Pour le 2, c'est bon, moi j'ai dit oui. Hein.
À Ibiza,
le 2 est à Ibiza, voilà.
Ah bah voilà, et bah au moins déjà, c'est quasiment signé. Vos projets pour 2023, on va terminer avec ça tous les deux. Je sais qu'il y a pas mal de choses du côté de Lucien, mais d'Elena, je n'en doute pas non plus.
Alors Lucien va faire un film.
Avec Elena dans le premier rôle, mais on attend une petite défection.
Je vais me faire remplacer dans le film de Lucien, parce que je vais au théâtre, mais il vous en parlera là dans 2 minutes. Donc il va faire donc ce film formidable dans lequel je devais jouer, mais c'est Zabou qui...
Tu y seras de toute façon, tu sais, on a conclu un deal hier. Parce que moi je bois, je machin, je fais la fête, mais j'oublie pas. Ouais. Et il y a déjà ce petit deal.
Je suis en photo dans son film.
Voilà, déjà, c'est pas mal.
Ah, c'est formidable. C'est mes débuts. C'est mes débuts dans le cinéma de Lucien Jean-Baptiste.
Pas parti trop vite.
C'est ça. J'y vais, je débute, quoi.
Voilà, voilà.
Mais sinon, je vais au théâtre. Moi, je joue au théâtre du Rond-Point à Paris. Une pièce qui s'appelle Un dernier rêve pour la route. que j'ai écrit. Ouais. Et qui est joué avec, par Christiane Coendi, qui est une grande dame du théâtre, Pierre Note, qui est un auteur fantastique, et Romain Brault, qui est une créature qu'on a découvert chez Madame.
Dans les crevettes pailletées aussi.
Et j'allais le dire, bravo, dans les crevettes pailletées. Voilà.
Génial, ça. Et ça partira en tournée? On aura peut-être la chance de le voir dans nos régions aussi?
Oui, on sera en tournée, mais alors, septembre, décembre, ne nous trompons pas, 24 déjà. Oui, c'est ça. Le théâtre, on est toujours un peu très très en avance. Donc on joue là en juin au Rond-Point à Paris et on tourne en 24.
Génial.
Voilà.
Lucien?
Ben j'attends mon rôle dans la pièce.
Tu devrais tourner pas loin de chez nous, dis donc.
Lui. Elle écrit pour lui, elle. Alors que moi, je, rien. Ouais, j'ai mon prochain long, là, ça fait 2 ans et demi que j'attends. Avril-mai, tournée, je suis encore en train de faire le casting. Donc prochain long, le titre ça s'appelle « Et maintenant », l'histoire de 3 pieds nickelés qui vont tenter une aventure de dingue. J'essaye de faire une comédie humaniste à la Capra. Qu'on prenne qui pourra, voilà, sur les gens qui se battent et essayer de faire que l'humanité qu'on a en nous prenne le devant parfois sur l'argent, tout ça. Voilà, je vais essayer de raconter cette histoire-là.
Une comédie qui va faire du bien, je le sens.
Oui, Inch'Allah.
comme tu sais si bien les faire, en tout cas, Lucien, on le sait. Et on est là pour chacun de tes aventures aussi. Merci en tout cas tous les deux d'avoir été avec nous pour nous reparler de BDE. C'est sur Prime Video que vous pouvez aller voir le film. On va se quitter avec un extrait. Merci à tous les deux.
Salut.
Salut, merci.
Un appel masqué à 7h.
Décrochez, c'est peut-être quelqu'un d'important.
Raphaël Nadal.
Rafa est intéressé par votre chalet et voudrait visiter avant de l'acheter.
Tant qu'il n'a pas acheté, c'est pas Ibiza dans mon chalet.
C'est bon, j'ai réussi à me libérer. Opération Bioman lancée.
La vue, mes potes, la vue.
C'est de la terre.
D'où tu sors? T'es malade ou quoi? T'es sur ma zone d'atterrissage!
Ma caisse à 150 000!
Prends le chéquier, on vous rembourse, mais regardez.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va parler flux et divertissement, jeu pour France Télévisions avec Alexandra Redamial qui est avec nous et qui va nous parler évidemment de tous les projets de France Télévisions. On va parler de l'Eurovision qui se prépare avec Lazara. Il y a plein de belles choses en tout cas pour France Télévisions qui se portent plutôt bien du côté divertissement. Bonjour Alexandra.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Il y a eu des cartons ces derniers mois. Prodige, qui a été un très gros succès pour les fêtes de fin d'année, qui est maintenant un rendez-vous incontournable. Mais on pourrait évoquer Fort Boyard, qui a plus de 30 ans d'existence, et en plus tourné chez nous. Il y a tellement de beaux programmes de divertissement, de jeux ancrés. Le carton N'oubliez pas les paroles. Aujourd'hui, je suis sûr que vous êtes fiers quand même.
On est très fiers à France Télévisions parce que l'idée, c'est de continuer à mettre sur nos antennes nos marques historiques. Hein, en essayant de les moderniser, en essayant de continuer à les faire grandir, et à la fois la création. Je crois que c'est vraiment nos deux visions qui sont extrêmement importantes, c'est continuer à faire perdurer nos marques et continuer à créer sur France Télé. Et c'est vrai qu'entre Fort Boyard, Prodige qui a fait un exploit cette année avec des scores absolument incroyables, Fort Boyard qui, pareil, on a revisité d'ailleurs, c'est très intéressant, mais quand on a des formats qui ont une trentaine d'années, on est obligé de les faire réétudier par nos téléspectateurs pour voir comment ils réagissent. Et grâce à nos téléspectateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer sur Fort Boyard, ce que l'on a fait l'année dernière, et le programme a été explosif en termes d'audience. Donc c'est très important, on est des vrais partenaires avec nos téléspectateurs. Et puis on a lancé des nouveaux jeux, on a fait le quiz des champions avec Cyril Ferron, on a lancé aussi 100% logique, la réponse est sur vos yeux, en prime time sur France 2, ça marche, on est très heureux, le jeu s'installe sur France Télévisions et puis encore une fois, les divertissements sont événements avec le 31 décembre, pareil, qui a réuni beaucoup de monde, le gala des pièces jaunes encore dernièrement, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être la chaîne de l'événement. Et puis j'en oublie parce qu'on a tellement de nouveaux projets. Je pensais aussi, parce qu'on est dans les Charentes-Maritimes, je crois que je vois le grand concours des régions qu'on a lancé avec les danses folkloriques, qui a été salué par le public sur France 3, avec Cyril Ferraud encore une fois. Là, on va tourner dans peu de temps d'ailleurs à Strasbourg la deuxième édition. Je peux même vous dire qu'on est en train de travailler sur une version des chants folkloriques aussi. Parce que voilà, je crois que la France n'a jamais été aussi mobilisée que quand on parle d'elle.
Il y a des formats qui marchent très très bien. Le village préféré des Français, par exemple, aussi, dès qu'on s'attaque aux régions. Alors, c'est côté France 3, évidemment, pour ça. Mais est-ce que toutes ces marques vont revenir, village préféré des Français, en nouvelle édition, pour ce printemps, évidemment, j'imagine?
Ah, c'est des marques, ce que j'appelle iconiques. Les Français l'attendent, que ça soit les villages préférés, les monuments préférés. Stéphane Bern est là. Il porte ce patrimoine, il porte cette France plus que jamais. Et pour nous,
c'est... Il connaît tellement bien.
Et qu'il connaît tellement bien et qu'il aime, que oui, ce sont des marques emblématiques qui sont des vrais rendez-vous pour les Français et qui vont revenir.
Alors un gros morceau, c'est l'Eurovision. Alors il y a eu l'Eurovision Junior aussi qui a vu couronner notre chère tête blonde française pour le coup. J'imagine que l'Eurovision Junior l'année prochaine, vous êtes en train de travailler peut-être pour que ça soit en France du coup.
J'ai annoncé, le jour de notre victoire en Arménie, à Yerevan, j'ai annoncé que nous organisons le prochain Eurovision Junior en France. Donc on est en train de travailler sur les différents lieux, où est-ce qu'on pourrait le faire. Tout ça n'est pas encore validé, donc je n'en parle pas. Mais en tout cas, on a très envie de pouvoir le faire en France, donc on est en train de regarder ça. Mais en tout cas, on va accueillir entre 18 et 20 pays en 2023. Donc deuxième victoire pour l'Eurovision Junior. Et puis on se met en marche parce qu'on aimerait bien gagner le grand.
Le concours Eurovision au mois de mai qui aura lieu, c'est Lazara qui va défendre nos couleurs. Je sais que c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché, cette Eurovision, Alexandra, et que vous portez tous les ans, évidemment, avec celui qui va représenter nos couleurs. Et c'est vrai qu'on y croit. On espère, en tout cas.
Je crois que l'Eurovision, c'est une marque absolument... Déjà, faut que vous sachiez que l'Eurovision, c'est la... En termes d'audience, c'est la marque la plus forte des divertissements pour France Télévisions. C'est une marque aujourd'hui qui est magnifique, qui est celle de faire rayonner la culture française en Europe. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions comme ça. Et c'est pour ça que je le porte au-delà du côté professionnel, je le porte vraiment dans le cœur parce que je pense qu'on a une culture qui est absolument fantastique et qu'on ne fait pas assez rayonner. Et donc, j'ai cette envie de gagner pour montrer à quel point la France est là, la France est présente. Plus on gagnera, plus la France sera mobilisée et plus l'Eurovision sera important et la marque Eurovision comptera dans la vie des Français. Donc, je me bats pour la gagner et je me bats pour faire rayonner la France en Europe.
N'oubliez pas les paroles, un succès incroyable. Et plus le programme vieillit, plus il y a de temps qu'il a l'antenne, plus les téléspectateurs augmentent. Comment expliquer ce succès phénoménal qui aujourd'hui a permis de remettre d'ailleurs toutes les soirées karaoké en France au goût du jour?
Je crois qu'on a, on oublie parce que la vie va vite, qu'on a traversé une période qui s'appelle le Covid, qui est une période qui finalement nous a tous mis un peu dans un état glauque. Je crois que le mot est ça. Et Nagui a cette grande force avec une émission qui est finalement iconique, encore une fois, d'être le rendez-vous, ce que j'ai envie de dire, du petit bonheur. C'est-à-dire, on chante, on s'amuse. Nagui est toujours là pour nous mettre de la bonne humeur, etc. C'est un rendez-vous, finalement, c'est un rendez-vous avec les Français. Un petit moment de bonheur dans une journée. Alors, il y a plein d'autres émissions qui apportent du bonheur. Mais je crois que ce rendez-vous-là et ce format-là est complètement iconique parce qu'il est addictif. On a envie de savoir, on a envie de savoir qui va gagner, on retrouve nos champions. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, Nagui réussit à fidéliser ses téléspectateurs chaque jour. C'est, je lui dis souvent, le roi de l'access.
C'est vrai. Les grandes nouveautés de ce premier semestre 2023, à quoi peut-on s'attendre d'ici le mois de juin? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver à l'antenne? Et est-ce que vous travaillez peut-être sur des futurs projets pour la rentrée aussi?
Alors, c'est pas des nouveautés, c'est des nouveautés qui vont continuer d'exister. Par exemple, que ça soit 100% logique, que ça soit le quiz des champions. Les jeux vont revenir en 2023, plus fort que jamais d'ailleurs. On a des nouveautés, on a des nouveaux jeux qu'on est en train d'acheter, dont je parle pas tout de suite parce que tout ça est encore en discussion. Mais il y a des jeux qui arrivent et puis il y a des gros événements aussi qui vont arriver. Je crois que le divertissement doit être l'événement. Et donc, on est en train de réfléchir à des belles choses pour pouvoir offrir à nos téléspectateurs ce que j'appelle un peu des cadeaux, ce que je fais d'ailleurs sur le 31 décembre ou sur la fête de la musique, offrir des gros événements, ce qu'on a fait d'ailleurs avec Paul Naref ou la spéciale Johnny, des gros primes qui permettent finalement de retrouver cette culture française à travers des artistes emblématiques.
Merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec nous. En tout cas, on retrouve voilà plein de beaux programmes et puis l'Eurovision évidemment qu'il ne faudra pas rater.
On est en train de tourner la saison 2 de Drag Race qui, vous le savez, parce que la plateforme, on a lancé sur le France.tv/ le Drag Race France saison 1 qui a été un grand succès. Et donc là, on est en train de tourner la saison 2 et d'ailleurs, il ne sera pas que sur la plateforme mais sur la seconde partie de soirée de France 2.
voilà, des belles choses qui arrivent. Et puis France.tv aussi, c'est la plateforme qui monte hein, au fur et à mesure. On imagine qu'avec la disparition de Salto dans les mois à venir, c'est plus un secret malheureusement que effectivement la plateforme France.tv sera l'objet de nombreuses exclusivités, de nombreux bonus de France Télévisions.
Exactement, je crois qu'aujourd'hui, la présidente Delphine Ernotte, Stéphane Sidbon-Gomez ont vraiment cette envie de mettre à l'honneur la plateforme France.tv/. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, il va y avoir des petites pépites qui vont arriver sur la plateforme. Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir à des vecteurs de diffusion. On a beaucoup de chaînes, mais aujourd'hui, c'est à qui l'on parle, quel est notre public et comment est-ce qu'on réunit les publics, parce que je crois que le média, et en tout cas notre média de France Télévisions, doit être le lieu de la réunion de la famille avant tout.
On a tellement de choses à dire. C'est passionnant, en tout cas, de parler ensemble avec Sandra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice des programmes de divertissement et des jeux de France Télévisions. À très bientôt.
Et à très bientôt. Et ravie d'avoir été dans la région. C'est magnifique. On vous adore.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous fêterons ensemble la sortie du film Sage Homme avec Jennifer De Volder, sa réalisatrice Melvin Boomer et la scénariste également du film seront avec nous. On va également parler de Meurtre à Pont-Aven. Odile McDonald, la productrice, viendra accompagner de la réalisation mais aussi d'Alexandre Brasseur qui sera notre invité à ne pas manquer. On évoquera aussi bien sûr Maman a disparu, la nouvelle fiction signée France Télévisions. Et puis la toute nouvelle série de TF1 Prométhée avec son héroïne Fantine Ardouin qui sera donc présente avec nous. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore lundi prochain.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.